Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Madame Laurence Faure. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici en tant qu'élève de l'association À Bras Palabra. Nous avons aussi Alejandra Vergara. Bonjour.
Bonjour.
Vous, vous êtes professeure d'espagnol au sein de cette association et cofondatrice également. Mmh. Et ensuite, Laurence Arnaud. Bonjour.
Bonjour.
Et vous-même êtes élève et secrétaire de l'association également. Et vous êtes aussi professeure d'histoire-géographie.
Voilà, c'est ça.
Alors, toutes les trois, vous êtes ici pour nous parler de cette association, donc À Bras Palabra, qui à l'origine était née en 2014 à Lyon, mais qui a pris ses locaux sur 10 depuis quelques mois. Et vous allez pouvoir peut-être nous présenter cette association, quel est l'enjeu et son activité.
Alors, en 2014, on était un groupe des familles hispanophones, hispanophiles. Donc, c'était aussi des Français qui avaient voyagé en Espagne ou en Amérique latine et qui aimait la langue. Et une fois qu'on a des enfants, on veut transmettre aussi cette langue et cette culture. Et on a souhaité justement instaurer des groupes, par exemple, hebdomadaires ou parfois par mois. Et on s'est constitué justement en association. À ce moment-là, on a créé des ateliers de transmission, donc on l'appelait comme ça, parce qu'on jouait, on faisait des activités plastiques, musique, et envers les enfants. Et puis, petit à petit, on a commencé aussi à travailler avec les adultes. Donc, parfois, le papa ou la maman francophone qui voulait aussi se mettre à l'espagnol, ou parfois les grands-parents qui venaient aussi à participer, pour faire partie de ce projet de bilinguisme familial. Et c'est comme ça qu'à Lyon, on était pendant 7 ans, dans Lyon 7e, à donner des cours, ateliers et des activités autour de l'espagnol. Comme langue d'héritage.
Donc là, vous vous êtes installé sur 10 depuis quand ?
En fait, on l'a fait il y a un an, depuis un an et demi, on a déménagé le siège de l'association À Bras Palabra à 10. Compte tenu que l'association à Lyon, elle avait commencé déjà à perdre sa force, justement après le Covid, l'association elle avait un local, mais qui financièrement s'est mal sorti après le Covid. Donc, et les amis, c'était un peu, ils étaient dans d'autres projets aussi. Et donc, à ce moment-là, j'ai repris l'association avec la bénédiction de mes cofondateurs. Et depuis là, ça siège à 10.
Voilà, le siège est donc au 7 rue Émile Laurent,
oui,
à 10. Donc, Laurence Faure, vous-même êtes élève. Qu'est-ce qui vous attire sur ces cours ?
La première chose, c'est que j'adore l'espagnol. Et la deuxième chose, c'est que j'avais commencé effectivement à l'écho des langues. Et l'écho des langues, Alexandra était notre professeure. Et donc, d'évidence, quand À Bras Palabra c'est créé, eh bien, évidemment qu'on a repris les cours avec notre groupe, avec tout l'enthousiasme qu'on avait auparavant. Voilà.
Pour vous, l'espagnol, c'est une langue qui vous plaît ?
Ah ben, je crois que je dois avoir une autre. Oui, non seulement ça me plaît, mais je pense que dans une autre vie, je devais être espagnole. Je sais pas.
Vous allez en Espagne parfois, justement ?
Oui, on va en Espagne, on va régulièrement en Amérique latine, surtout.
C'est nécessaire donc cette approche linguistique par l'immersion en quelque sorte. Hein, vous nous expliquerez la méthode, Alejandra.
Oui. Ah oui, c'est un vrai bonheur. Pour moi, c'est pas une nécessité vitale, parce que dans la mesure où ça n'existait pas à 10, j'aurais pas fait. Mais moi, je suis ravie d'aller au cours et chaque fois, toutes les semaines, j'en apprends un peu plus. Je suis très contente. Ouais.
Laurence Arnaud, vous-même, donc, êtes élève aussi, hein, et secrétaire de l'association. pour vous la question et l'espagnol, pareil, c'est une attirance pour cette langue.
Oui, oui, c'est une attirance pour cette langue, puis pour la culture espagnole aussi, puisque on a, enfin, donc j'ai fait de nombreux voyages en Espagne, pas en Amérique du Sud justement, mais en Espagne. Et en fait, l'idée, c'était, donc j'ai travaillé avec Alejandra quand elle était encore professeure d'espagnol ici à Die, et on a organisé des voyages pour les élèves. Et en fait, on est sur la même longueur d'onde sur l'idée d'immersion et de découverte de la culture espagnole. Et donc, on a eu cette idée de se tourner vers un public adulte et de se dire, pourquoi pas organiser un voyage pour adultes pour découvrir pas très loin de la frontière, puisqu'on se lance, hein, c'est le tout début. Donc, découvrir pas loin de la frontière le monde hispanique et la culture hispanique, même si on n'est pas vraiment en immersion comme on peut le faire avec les élèves en les mettant dans des familles. Là, l'idée, c'est de faire quand même des activités, c'est de discuter, c'est de découvrir d'autres paysages. Donc, voilà.
Ce voyage organisé en Espagne, ça sera proche de la frontière, ça permettra en quelque sorte une pratique en immersion de cette langue.
Oui, 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 c'est cette idée-là. À la fois de découvrir, donc on va aller à l'Escala, qui est une petite ville qui est au sud, pas très loin de Gironde. Et au nord de Barcelone, et donc qui est dans le pays catalan, mais où les personnes parlent tout à fait le castillan. Et donc là, l'idée, c'est de découvrir à la fois la culture locale, donc d'aller faire des musées, d'aller se balader, mais aussi déguster la gastronomie locale, de faire des ateliers cuisine, justement, pour découvrir cette gastronomie. Et donc vraiment de pratiquer, d'essayer de parler en espagnol à ce moment-là, pendant toutes ces activités.
Un séjour qui va durer combien de temps ?
Alors, on va partir du 18 mai au 22 mai, donc dimanche 18 mai au 22 mai, donc 5 jours et 4 nuits. Et donc, nous avons loué donc un logement à l'Escala. Et on tournera autour de l'Escala, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire autour de l'Escala, entre les musées, entre les villages médiévaux. Donc, on a beaucoup de choses à faire.
Alejandra, donc vous-même êtes professeur d'espagnol dans l'association. Et comment se pratiquent ces ateliers justement? Avec quel public? Vous en avez parlé, mais au nombre de combien?
Oui, en fait, les groupes, c'est à partir des 3 jusqu'à 6 maximum, parce que l'idée, c'est donner la place à la parole. Moi, j'aime beaucoup faire parler les gens, et surtout, c'est parce qu'on fait sens, c'est ce qu'on apprend le mieux. Et en groupe de 6, c'est très bien, parce qu'en même temps, on peut partager des expériences. Les questions qui se font par rapport à la langue ou la culture des uns, ça peut être pour les autres la même chose. Et en fait, ça passe dans des séances hebdomadaires de 1h30 sur place. Après, il y a d'autres formats, donc des cours particuliers, donc c'est 1 heure. Et là, c'est plus libre. C'est souvent les gens qui travaillent ailleurs et qui reviennent un peu ici. Donc ça aussi, c'est ouvert. Et là, je propose aussi des cours en ligne pour ceux qui ne sont pas là et du coup peuvent être ailleurs. Ils veulent apprendre l'espagnol. Mon expérience, en fait, ça fait 24 ans que j'apprends l'espagnol dans différents contextes. Et pour moi, c'est justement faire l'axe communicatif, la communication, mais aussi en prenant en compte tout ce que c'est la grammaire. Par exemple, pour moi, c'est l'architecture des langues qu'on ne doit pas passer comme ça. Et moi, ça m'oblige aussi à moi-même me poser des questions. C'est très intéressant. Je suis une amoureuse des langues. L'espagnol, pour moi, c'est ma langue maternelle. Et ça me permet aussi de découvrir des choses au fur et à mesure que je donne aussi les cours. Et là, apparaît aussi le côté culturel. Moi, j'adore aller en Espagne, même si je suis chilienne d'origine. Mais j'ai eu la chance de parcourir l'Amérique latine à vélo, donc pendant un an avec mon mari. Ça m'a permis aussi de voir l'Amérique latine autrement qu'à travers les manuels. Et mes voyages en Espagne, ça me permet aussi de donner un avis un peu différent de certaines choses, ou peut-être appuyer, ou donner plus de renseignements parfois, où je trouve que c'est utile de poser.
La méthode est principalement orale, ou vous procédez aussi par l'écrit?
Il y a les deux. Donc moi, j'ai fait une mémoire, des recherches, une thèse aussi autour de l'oralité dans des langues, Mais par contre, moi, j'utilise aussi un support écrit. Donc, c'est un manuel que c'est moi qui a créé au fur et à mesure de mon expérience. Donc, les cours, ça permet aussi d'avoir un soutien. Donc, on appelle ça un support écrit, donc un support grammatical, et en même temps la partie orale. Et au fur et à mesure où les élèves puissent, qui sont capables déjà de produire en espagnol, bah, l'idée, ce sera par exemple de faire des petits exposés, mais pas au niveau d'exposés oraux à l'école, sinon plutôt de parler d'un sujet, que les autres puissent poser des questions. Donc au fur et à mesure, on avance avec un niveau, on peut donner place à cette parole plus, voilà, d'une façon plus conséquente dans les cours.
Laurence Faure, vous-même donc êtes élève. Qu'est-ce qui, comment trouvez-vous justement cette activité de cours, cette méthode? Est-ce qu'elle correspond à ce que vous demandez?
Oui, moi elle me correspond très bien. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que si on ne faisait que parler. C'est-à-dire qu'Alexandra, pour être chilienne, parlait très bien espagnol et finalement, j'allais dire, on discuterait pendant une heure et demie. Chacun notre tour, ça c'est certain. Mais je pense que c'est pas suffisant, effectivement, comme elle le dit très bien, c'est pas suffisant. Il faut aussi de la grammaire, il faut aussi de la structure. Et tout ceci étant basé sur, j'allais dire, une... pas la grammaire particulièrement, mais sur la connaissance aussi d'un sujet culturel ou éducationnel, ou relatant la culture d'un pays, d'une région, de un monument, une peinture, quoi qu'il soit. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est pas simplement de la discussion à bâton rompu. Ça, et puis toutes les autres idées dont Laurence a parlé, des voyages, les cours de cuisine. On fait des réunions souvent avec des cours de cuisine. Donc, c'est tout un ensemble qui fait qu'il y a une immersion plus importante que simplement celle de parler avec une native d'un pays. Quoi. Voilà.
Alejandra, quelle est la différence dans les constructions grammaticales de l'espagnol et du français?
Bon, c'est large comme sujet.
Ah oui.
Après, bon, par exemple, ce qu'on travaille le plus dans un niveau intermédiaire, par exemple, l'utilisation de temps du passé, par exemple. Donc en français, on aura tendance à parler du passé composé et de l'imparfait pour donner une description du passé. Et puis les passés simples, par exemple, on le retrouvera à l'écrit, dans des romans. Voilà. Et en espagnol, on aura tout ça à l'oral, par exemple. Donc, souvent, plus en Amérique latine, donc on aura souvent l'utilisation du passé simple, avec toute l'irrégularité qui est toute... et au passé composé, on le retrouve plutôt en Espagne. Voilà, donc ça aussi, c'est la façon de me permettre aussi de retrouver mes élèves, de voir, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a un beau-fils colombien, c'est sûr qu'il va trouver, par exemple, un registre, une variante qui va utiliser plus passé simple, par exemple, au niveau de la grammaire. Et ça, c'est important au niveau culturel après, parce qu'effectivement, on va trouver cette petite différence au niveau de la langue qui vont être aussi porteurs d'autres différences. Et puis, voilà, on trouve, par exemple, l'utilisation du subjonctif, par exemple, qu'en espagnol, on l'utilise beaucoup plus. Cette idée de « ojalá », donc « ojalá » qui vient de l'arabe « inshallah », avec tout ce qui va derrière, en fait, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de quelque chose d'autre. Et ça, c'est des concepts que, pour un public francophone, parfois, ça peut sembler un peu étrange, même si on a le subjonctif en français. Voilà, c'est des choses comme ça que ça... Voilà, ça, c'est, voilà. Ça permet de faire ça.
À vous entendre, je me suis demandé... comment se faire comprendre sans avoir une réelle base grammaticale en espagnol? Est-ce que l'espagnol, la personne espagnole, peut comprendre une succession de noms avec peut-être des verbes, mais sans les conjuguer? Est-ce que...
En fait, moi, quand je donne mes cours pour quelqu'un qui, par exemple, commence, qui débute l'espagnol, moi, je préfère être très claire, c'est-à-dire si vous travaillez de votre côté et moi, je vous donne tout ce que j'ai pour vous donner des bases, autour entre 10 et 15 heures, vous pouvez quand même aller en Espagne, repérer certaines choses. Vous n'allez pas être bilingue, bien sûr, mais par exemple, vous pouvez se présenter Et aussi, je donne la formule pour parler du passé composé, donc les choses que je viens de faire. He llegado hoy a Madrid a las 12. Voilà, donc ça, ça nous permet aussi de faire ça. Et l'idée des futurs, futurs proches, voy a comer a las 12. Voilà, donc c'est l'idée aussi de. Mais c'est juste ça. Après, voilà, c'est des heures de travail aussi personnelles, parce que ma pédagogie aussi, ça, elle est dans le sens où je donne du matériel. Parfois, à l'avance, je donne des exercices. Les gens, ils disent, mais c'est quoi ça? C'est 30 pages. Je dis, voilà, c'est 30 pages qu'on fera au fur et à mesure. Sauf si cette personne-là veut faire plus rapidement, il peut aller loin. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. Et en fait, maintenant, c'est très à la mode de parler des pédagogies inversées. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis longtemps. Moi, ma formation initiale, c'était fait au Chili. Donc, et on donne à l'élève la responsabilité aussi d'apprendre de leur côté et de travailler ensemble. Donc, ça fait aussi ces deux possibilités.
Laurence Arnoux, vous-même, donc, êtes élève. Pour vous, cela enrichit aussi vos possibilités de professeur d'histoire-géographie et de vous intéresser aussi à l'histoire de l'Espagne?
Oui, oui, tout à fait. L'idée, c'était vraiment de pouvoir... encore plus découvrir cette culture et puis en pratiquant la langue, puisque bon, je vous disais, j'allais régulièrement en Espagne et c'est vrai que en pratiquant pas la langue, c'est quand même on est coupé hein, des personnes. Et donc là, voilà, il y a une frustration qui se crée. Donc là, c'est l'idée vraiment de pouvoir communiquer. Et d'autant plus que depuis 2 ans, on avait organisé des voyages avec donc des classes d'espagnol sans être professeur d'espagnol moi-même. Mais et du coup, voilà, on est en Europe, hein, donc on a des langues de communication. On a l'anglais, on a le français. Mais l'idée, c'est quand même d'être plus à l'aise en espagnol pour pouvoir justement renforcer ces échanges et pouvoir aller un petit peu plus loin dans tout cela.
Vous-même, Laurence Faure, êtes adepte de voyage en Amérique du oui. Sud. Pour vous, c'est aussi un bon bagage de cette connaissance.
Mais oui, c'est un voyage dans lequel vous parlez la langue du pays et un voyage dans lequel vous ne parlez pas. C'est extrêmement différent. Et vous captez des choses beaucoup plus intéressantes quand vous parlez la langue et ou que vous comprenez. Vous comprenez la langue. J'ai un autre exemple là, proche. Nous, on est allé beaucoup au Mexique, essentiellement, puisque j'ai une très bonne amie qui est là-bas. Mais on est allé en Inde il n'y a pas tellement longtemps. Et heureusement, ils parlent anglais. Et donc, en parlant anglais, on y arrive. On arrive à communiquer. Alors qu'on est allé une fois avec mon mari, une fois plusieurs fois, en Mongolie, eh ben, moi, je m'ennuyais comme un rat mort parce que je ne comprenais rien. Après, il n'y a que les yeux.
Il ne parle pas du tout espagnol, hein, en Mongolie.
Ah non, ni anglais, ni rien. Mongol, ouais.
D'accord. Et justement, cette attirance pour l'Amérique du Sud, c'est connaître la culture également oui. par cette langue.
Oui, bien sûr.
Et d'ailleurs, juste une question, une petite observation. Est-ce qu'il y a une différence linguistique entre la langue espagnole et celle qui se pratique en Amérique?
Oui, bah c'est comme les Français du Canada, du Québec, les Français de Suisse. En fait, il y a différentes façons, parce qu'on parle d'un territoire énorme, on parle de tout un continent, et en Amérique latine, et en fait, avec l'Espagne, on a vraiment des différences aussi qui vont de l'époque de la colonisation jusqu'à nos jours. Donc, il y a des différences au niveau de la distance, donc l'espace et le temps aussi. Donc, oui, il y a des différences, mais malgré tout cela, on peut parler l'espagnol. Sauf si on apprend vraiment une façon très régionale de parler, on peut arriver à discuter avec les autres. Et en fait, c'est surtout au côté du lexique que parfois ça peut changer.
Il y a une langue officielle de l'espagnol, hein, avec sa grammaire, en quelque sorte. Une langue référente de l'espagnol, non, à travers le monde. Et puis, il y a peut-être comme l'anglais.
Oui, en fait, l'espagnol, c'est une langue parlée déjà en toute Amérique latine, sauf le Brésil et les Belize.
Oui.
Donc, ça nous permet déjà une uniformité. Voilà, c'est partie de l'histoire aussi. Et, donc, c'est des langues officielles partout. Voilà. Aux États-Unis, c'est pas une langue officielle, mais on a la quantité des locuteurs d'espagnol, c'est très, très, très importante. et c'est plutôt des choix politiques qui empêchent que l'espagnol devienne une langue co-officielle. Et ailleurs, par ailleurs, en Espagne aussi, on a, n'oublions pas qu'il y a l'espagnol, le castillan, donc le castellano, qui se fait pas si pareil qu'en France. En fait, c'est la langue de la région de la capitale. Mais on a aussi, comme en France, des plusieurs langues régionales, mais qu'en Espagne, ils ont un statut différent. C'est des langues officielles dans leur communauté autonome. Donc l'euskera, donc on le connaît comme les basques, mais l'euskera, le catalan, voilà. Donc on a 6 langues en Espagne qui nous permet aussi de, lorsqu'on fait des voyages en Espagne, rencontrer cette différence linguistique et culturelle complètement validée aussi par l'État.
Par exemple, là où vous allez vous rendre, ça sera plutôt le catalan.
Mmh, oui, c'est le catalan. Mais voilà, les personnes parlent tout à fait castillan aussi, et notamment quand ils voient des touristes. Et ils savent très bien que les touristes, notamment français, ils apprennent que le castillan. Ils vont pas parler en catalan avec nous. Entre eux, c'est pas la même chose entre espagnols. Mais voilà, il y a vraiment la volonté de communiquer avec nous. Hein. Et les échanges qu'on a pu faire avec les élèves, c'était pareil. Les élèves parlaient totalement catalan. À la maison, ils parlaient catalan, mais ils parlaient castillan avec nous.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA,
la radio du DIWA.
107.5,
101.7,
FM.
Laurence Faure, ces séjours en Amérique du Sud, pour vous, c'est une pratique de l'espagnol, mais au-delà de connaître aussi d'autres choses?
Oui. La pratique de l'espagnol, j'allais dire, elle va de soi, quoi. Mais c'était surtout de rencontrer mon amie, déjà, et puis de connaître son pays, qui est le Mexique. Et on a fait pratiquement tout le Mexique avec elle. Donc ça, c'est évident. C'est une culture très importante, très intéressante. Voilà, quoi.
Juste un souhait de connaissance culturelle, hein.
Culturelle et amicale.
Amicale.
Ah oui, amicale. C'est très important parce qu'on est allé aussi, elle est venue aussi en France et on l'a même emmenée en Suède. Enfin bon, bref, c'est amical.
Ce désir, Alejandra, de cette association à bras pas la bras, d'ailleurs, on peut peut-être signifier le sens de ce mot?
Oui, bah bien sûr. Déjà, ça fait le son abracadabra, donc c'est le ton magique. Et en espagnol, abra, donc c'est ouvrir, ouvrez, donc c'est un peu, a palabra, c'est les mots. Donc ouvrez la parole, ouvrez le mot aussi, ça c'est un peu un jeu de mots. Et dans le sens où j'étais enseignante d'espagnol, bien sûr, mais une chose c'est faire ça en tant que un métier. Et les jours où mes enfants grandissaient, ils ne me parlaient pas en espagnol, là, j'ai commencé à comprendre que c'était un projet important à mettre en place. Donc, c'était partagé avec d'autres familles, surtout des mamans hispanophones, qui, une fois qu'on a migré en France, on a adopté le français comme langue pour les jours au jour. Mais une autre question, c'est aussi transmettre, par exemple, lorsqu'on parle que français avec nos conjoints, comment est-ce qu'on peut faire d'instaurer un projet de bilinguisme? Et ça aussi, c'est très large, et pour ceux et celles qui souhaitent, par exemple, qui écoutent cette émission et qui souhaitent, par exemple, un jour, qui ont cette problématique à la maison de parler une autre langue, parlez avec moi, venez vers moi, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, de comment est-ce qu'on peut soutenir les projets de bilinguisme au niveau familial, lorsque parfois on a des points de vue différents, on va dire, dans la société, comme quoi il ne faut pas parler une deuxième langue. C'est un sujet qui ça se parlait avant, mais ça continue aujourd'hui. On a encore la problématique des parents d'élèves, des parents qui arrivent et disent mais la maîtresse m'a dit qu'il faut arrêter de me parler parce que je confonds les langues. Et en fait, c'est des choses qu'on sait que c'est faux. Parfois, on peut avoir des difficultés, comme on peut avoir des difficultés dans toute série dans tous les domaines. Mais les langues, forcément, ça devrait pas nous empêcher à comprendre et ça devrait pas nous empêcher à être un bon élève. Donc, c'est aussi l'idée de que mes enfants puissent apprendre l'espagnol de façon d'une acquisition, pas un apprentissage. L'acquisition, c'est-à-dire à travers la nourriture, à travers les repas, à travers les jeux. Et ça, c'est pas évident pour les familles. Et en fait, c'était un travail un peu militant qu'on a créé à ce moment-là, qui ça a donné suite à des cours plus structurés autour voilà, d'un atelier avec des niveaux différents, etc. Mais à la base, vraiment, c'était encourager, soutenir les parents, surtout les mamans, qui étaient en train de dire « Bon, je vais arrêter de parler espagnol parce qu'ils m'ont dit qu'il est dyslexique. » Donc, non, tu continues à le parler si tu veux. Personne ne peut te dire si tu le donnes à manger à ton enfant des haricots ou des pommes de terre. C'est pas, la langue, c'est ça. C'est notre nourriture aussi. Et c'est là aussi, les Basques, voilà, que je suis très attachée au Pays Basque, c'est notre langue, c'est notre lait aussi. Donc, ça, on doit la maintenir, on doit la maintenir vivante. Et ces deux langues... C'est ça aussi, en fait. Un enfant bilingue ou un adulte bilingue, ça ne l'empêche pas d'être fort en français ou en anglais. Au contraire, ça va le permettre aussi de comprendre au-delà du code. Et c'est ça qui, pour moi, c'est très important à soutenir. Que, en fait, il y a des Français qui parlent différentes langues. Ils ne sont pas moins français parce qu'ils parlent d'autres langues.
Justement, cet accès à cette langue d'Espagne, pour vous, cela représente aussi des avancées relationnelles, d'activités également, peut-être de création, de partage, de, voire économique, pour d'autres, entre le Diwa et ses territoires, notamment, par exemple, vous, Laurence Arnaud, quand vous vous rendez en Espagne, est-ce que vous avez le désir de constituer une structure qui lie ces deux points géographiques, le nôtre et là où vous vous rendez?
Pas vraiment. Enfin, j'y ai pas réfléchi en tous les cas. Non, là, c'était vraiment l'idée de justement de créer des liens beaucoup plus importants entre les activités de cours ici à Di et puis d'avoir la réalité espagnole et de vivre dans un contexte espagnol. Donc c'est plus ça. Après, peut-être dans l'avenir, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça peut évoluer.
Laurence, fort pareil pour vous, ce contact avec l'Amérique du Sud et cette acquisition de cette langue, ça vous permet de constituer aussi des relations?
Oui, mais j'allais dire même de façon générale, même en restant, j'allais dire, à Di, au cours, avec Alexandra et mes comparses que je connais, dont j'ai fait connaissance en cours et que je connais maintenant depuis 5 ans, quoi. Et ça, c'est aussi important, c'est un tissu relationnel qui se fait autour, effectivement, d'une activité et qui, pour moi, est un vrai loisir. Hein. Voilà.
Vous en avez abordé un petit peu le cas. Alejandra, c'est aux États-Unis. Le nouveau président a décrété que l'anglais serait l'unique langue officielle aux États-Unis. Qu'est-ce que cela fait pour vous?
En fait, ça répète, c'est pas nouveau ça. En fait, c'est les politiques linguistiques ça a été depuis tout le temps, quoi. Donc, effectivement, c'est une négation de toute une population, mais c'est la même négation qu'ont vécu aussi les peuples autochtones, où on fait effacer leur langue pour transmettre déjà une idéologie différente, déjà l'école, déjà l'église et l'État. Donc ça, c'est plus souvent de ce qu'on peut retrouver. En fait, là, ça fait vraiment l'info nouvelle parce que c'est Trump, mais ça pourrait être ailleurs. Et tous les jours, on a pareil, l'Espagne avec la Catalogne aussi. À chaque fois, il faut qu'ils puissent, les Catalans... Voilà, je ne vais pas donner une vision politique, mais c'est ça s'appelle la politique linguistique. Et en fait, ça dépend à ces niveaux-là. Et des interdictions ou pas, mais après, qu'est-ce qu'on va... On peut continuer à parler notre langue avec fierté. Moi-même, par exemple, je suis métisse, et les langues indigènes au Chili, ils ont en risque. Ils ont aujourd'hui, très peu de la population parle des langues indigènes. Mais c'est là, c'est pas parce que les gens, d'un jour au lendemain, ils ont décidé d'arrêter de parler. C'est juste parce qu'il y a cette discrimination, cette différence entre les langues dominantes et langues minorisées ou minorées. Voilà, pour moi, l'espagnol, c'est une langue quand même qui va au-delà des États-Unis. Les gens vont continuer à parler leur langue. Et surtout, voilà, l'invitation que je réalise tout le temps, hein, quand je dis, bah, parlez votre langue, la langue de votre cœur, c'est ça le plus important. Et n'empêche pas d'apprendre d'autres langues. Moi, je parle le français couramment, avec mon accent certes, mais c'est une langue que j'ai adoptée il y a 23 ans. Et en fait, ça fait partie de mon identité.
À l'inverse, vous vous rendez donc dans des pays hispanophones, hispanophones, merci. Et est-ce que vous avez, avec les contacts de population ou de personnes que vous côtoyez, pour elles, aussi un désir de connaître le français? Est-ce que vous vous échangez peut-être aussi à ce niveau-là?
Bah oui, c'est bon. Disons que l'idée au départ de... Donc bon, il y a les voyages personnels qui se font et on essaie de rencontrer des personnes. Mais l'idée, par exemple, quand on parlait des voyages scolaires qu'on a pu organiser, l'idée, c'est toujours d'avoir un échange avec un lycée. Et le lycée apprend le français, en fait. Et il y a un échange, c'est-à-dire que nous, on va là-bas, les élèves parlent espagnol, ils sont dans l'immersion de familles espagnoles, on fait les activités en espagnol. Mais quand les élèves espagnols sont ici en France, c'est pour parler le français, pour être en immersion en français. Et je pense qu'une idée, peut-être, d'évolution de l'association, enfin, des voyages qu'on pourrait faire avec l'association, ça serait justement de faire un échange famille-famille aussi, quoi. Parce que ça serait l'idéal. Bon, après, il faut trouver...
Oui, il faut le temps. Hein.
Voilà, il faut le temps que ça se mette en place. Mais voilà, c'était l'idée qu'on avait aussi avec Alejandra, d'essayer de trouver peut-être des clubs là-bas qui apprennent le français et de se mettre dans ce genre de relation. Parce que moi, ça fait très longtemps que je pratique ces échanges. Alors, en anglais, parce que je suis prof de section européenne, mais je trouve que c'est l'idéal pour apprendre la langue.
À l'origine, Abrapalabra permettait aussi à des enfants de pratiquer cette langue minoritaire, l'espagnol. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, Adi, ou alors c'est plus tourné vers les adultes?
Aujourd'hui, c'est plus tourné vers les adultes, mais ça a été toujours ouvert à cette possibilité. Donc voilà, effectivement, s'il y a des gens qui écoutent l'émission et qui souhaitent, par exemple, pour la rentrée prochaine, mettre en place cela, c'est possible. En fait, je suis assez ouverte pour ouvrir des créneaux. Et surtout, c'est quelque chose qu'on a appris justement en tant que maman des deux petits franco-chiliens, qui ont appris justement l'espagnol par ces biais-là. En fait, en appuyant, en fait, ce qu'on faisait à la maison, on pouvait appuyer avec des ateliers. Donc, on faisait venir aussi des intervenants qui parlent espagnol. Et surtout, c'est pour la petite enfance, c'est très intéressant et très important de générer ce type d'espace pour que les enfants puissent comprendre aussi. Déjà, ceux qui parlent une langue étrangère, qui maintenant se met en place avec l'éveil aux langues, qui puissent comprendre aussi que c'est une façon de faire. Et il ne faut pas avoir honte de parler la langue qu'on parle à la maison. Ça fait, tout le monde est différent. Et parfois, il y a des enfants qui, parfois, ils ont de mal à parler l'espagnol ou le portugais, l'italien, parce que peut-être les copains ne vont pas parler. Mais s'ils voient que les copains ils sont très contents aussi d'écouter cette langue, ça permet aussi de développer des compétences linguistiques, mais aussi au niveau personnel. Et donc ça existe toujours, cette possibilité. Hein, donc je suis assez ouverte, perméable aussi à ces sollicitudes de faire... que les langues, ça fasse partie aussi d'un parcours... éducatif. C'est très intéressant aussi. Là, la plupart des gens disent que les langues en France, on l'apprend très tardivement. Et c'est vrai. Et donc, voilà, c'est intéressant pour les enfants qui ont déjà quelque chose et pour ceux qui n'ont jamais entendu, parce que à la maison, ils ne parlent aucune langue. Voilà, que c'est aussi intéressant de voir comment on peut s'éveiller, l'éveil aux langues. Quoi. C'est très important.
Justement, la prononciation de l'espagnol, est-ce que c'est un écueil pour vous, parfois? Non, ça semble naturel.
C'est pas naturel, mais ça s'apprend. Voilà, oui. C'est parce qu'il y a des sons qui n'existent pas en français et il faut les apprendre. Mais c'est vrai que si on a fait de l'italien, par exemple, avant, il y a déjà des sons qui reviennent. Le R, par exemple, enfin, une forme du R revient. Mais voilà, il faut apprendre. Oui. ça c'est...
Et ces ateliers en immersion, est-ce qu'à l'image de ce que pratiquait l'écho des langues, c'est-à-dire de pratiquer dans l'action, dans une certaine réalité, par exemple la prise d'un déjeuner ou préparer un repas ou aller dans des activités qui utilisent justement une action pour influer et peut-être aussi apprendre une langue?
Bah justement, l'immersion, c'est effectivement de...
Oui, mais
ici, à Adi, par exemple, c'est... Mais on rencontre des gens qui parlent espagnol. Donc parfois, lorsqu'on fait une activité... voilà, l'autre jour, on était au cinéma et on était accompagné d'une copine mexicaine qui est venue parler avec nous à la sortie du cinéma. Et ça, c'est possible, en fait. L'idée, c'est retrouver ou de chercher des espaces comme ça pour pouvoir parler. Et ce qu'on fait notamment avec tous les niveaux confondus, c'est le repas dont parlait Laurence. Et on fait un repas en fin de trimestre, parce qu'on fait les ateliers chaque trimestre. Donc à la fin de trimestre, on fait un atelier cuisine. Et en fait, on passe toute la matinée du samedi à préparer. L'idée, c'est jouer le jeu. On ne parle qu'un espagnol. Ceux qui ne veulent pas, bon, écoute, voilà, en même temps, c'est pas grave, hein, écouter et faire voir comment font les autres et attendre un peu comment est-ce qu'on peut être utile. Et après, bon, après, on partage le repas et c'est là où vient le français pour discuter, pour papoter. Mais bon, l'idée, c'est faire des ateliers comme ça chaque 3 mois et qu'on puisse parler de façon un peu plus dans l'action et pas autour... pas réfléchir à ce que j'utilise un passé composé, un passé simple, c'est plutôt dans l'action. Donc ça aussi, c'est possible.
Laurence Faure, justement, vous, avec ces séjours au Mexique, est-ce que vous allez découvrir des recettes culinaires et les partager,
pas,
peut-être?
Pas tellement parce que mon ami ne fait pas la cuisine. C'est plutôt ça, mais sinon on va au restaurant, bien sûr.
Oui, mais il n'y a pas des spécialités culinaires?
Si, bien sûr. Toutes les enchiladas, toute la cuisine à base de piment, toute la cuisine. En fait, c'est une cuisine qui est assez, pour c'est une cuisine qui est à base de tomates, de piments, de viande hachée et qui est mise en œuvre, de légumes, et mise en œuvre de différentes façons, en fait.
Alors, il y a aussi cette importance d'opérer du bilinguisme au sein des familles, hein, pour les désirs de certains. Et justement, il y a aussi de faciliter la formulation ou la réalisation de projets. Je reviens un peu sur cette question. Est-ce que, pour vous, ça répond à vos attentes pour une de vous deux, Laurence?
Alors, moi forcément. Forcément, puisque c'est une autre dimension du cours. Quand on n'est qu'en cours et qu'on ne se sert jamais d'une langue dans la pratique... Eh ben, c'est limité, hein. Moi, j'habitais Lyon avant et j'allais à l'Institut Cervantes. Et il y avait des gens qui apprenaient qu'ils n'allaient jamais en Espagne, mais qui allaient toutes les semaines à l'Institut Cervantes. Mais donc, c'est pas tout à fait ma vision, mais c'en est une.
Il y a une grande communauté d'Espagnols à Lyon.
Oui, tout à fait. Et Adi aussi, dans les Yigua, il y a quand même pas mal de... j'ai rencontré à Valence des gens, Adi aussi, il y a des hispanophones. Et ouais, on est une communauté assez importante. Après, c'est vrai, il faut trouver des occasions pour se retrouver, parce qu'on a tous une vie. Mais effectivement, oui, il y a des communautés, c'est la France. Hein, c'est
un... est...
voilà.
Pour connaître un peu plus, il y a une page Facebook de l'association.
Oui, on a un cours et atelier association, nos cours et ateliers d'espagnol, association Abra Palabra. Sinon, sur place, 7 rue Émile Laurent, pas dans les horaires des cours, bien sûr. et voilà, c'est plutôt ça ce qu'on fait là. Et la publicité aussi, pour montrer un peu ce qu'on fait. Aussi, on passe beaucoup au journal du Diwa. Parfois, je mets les petites annonces comme ça pour montrer qu'on est là. Et voilà. Et les forums des associations aussi. C'est la deuxième fois que nous avons participé.
Sur cette page Facebook, il y a des moyens de vous contacter. Hein.
Oui.
Ne serait-ce que la boîte mail de l'association.
Oui, voilà. C'est association.abrapalabra@gmail.com.
Et il y a un numéro de téléphone. Est-ce qu'on l'indique?
Oui, c'est le 07 83 94 98 42.
Eh bien, je vous remercie toutes trois d'être venues. Peut-être on peut conclure cette émission avec une chanson. Est-ce que vous auriez une...
En espagnol?
Préférence, oui.
La dernière fois, on a fait « Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada ».
On la
connaît. C'était pas dans les cours. Voilà. C'est une chanson de... Willie Colon, un portoricain grandi aux États-Unis, qui a fait une chanson. À l'époque, c'était pour. C'était la première chanson en espagnol qui parlait du VIH. Mais c'est une histoire. Mais avec la musique, c'était pour montrer en fait que les paroles, ça peut être vraiment un drama, vraiment très triste. Mais la musique, ça nous invite à danser. Donc, ça, c'est la. La paradoxe de la culture latino-américaine. Oui. On rit de la douleur. Et
Laurence Faure, justement, la musique, quelle place occupe-t-elle dans cette culture mexicaine?
Mexicaine ou espagnole, hein, pas que mexicaine.
Mais je parle par rapport à vos voyages.
Oui, mexicaine, parce que dans la rue, il y a tous les... comment se llaman?
C'est quoi, tu auras guitare, là?
Los mariachis.
Et donc, on les entend, on ne peut pas passer à côté. Et de toute manière, c'est de, j'allais dire, de midi à minuit. Donc, par essence, si. Et puis, c'est très gai. C'est très... ça donne beaucoup de vie. C'est très bruyant, évidemment, mais c'est très sympa.
Je vous remercie donc Laurence Faure, Alejandra Vergara et Laurence Arnaud d'être venus sur RDWA pour nous parler de Abrapalabra, cette association linguistique pour l'instant d'espagnol, mais ça peut se développer sur d'autres langues par la suite.
Bah, pour l'instant, l'espagnol, ça nous donne beaucoup de travail.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón.
abandono para siempre. De una extraña enfermedad murió Simón. Es el verano del 86. Al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón.
Tiene destino cierto.